R22 tout le monde présente
relecture
en réécoute antenne Kiasma.
Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte.
Thank you. sur les bateaux pirates. Au XVIIIe siècle, sur beaucoup de bateaux pirates, il y avait un orchestre. Il était destiné à donner l'élan de l'assaut, de l'abordage. Alors comme ce soir il s'agit de donner l'assaut à un certain nombre de préjugés, à une flotte de préjugés, on a constitué un orchestre pirate. C'est ce qu'on a trouvé de mieux par rapport à ce type de préjugés. À commencer par celui-là. D'après ce qu'on entend dire, d'après ce que l'on croit, d'après ce qui se dit, nous vivons en démocratie bel et bien, nous vivons bel et bien démocratiquement. Mais on fait étrangement abstraction d'une chose. Pour ceux qui sont les plus nombreux d'ailleurs dans la démocratie, qui travaillent, mettons, eh bien, de 9h à 10h par jour, c'est-à-dire les deux tiers de leur vie réveillée, ils vivent dans un système de pouvoir qui, lui, n'a absolument rien de démocratique, qui est même plutôt ce qu'on appelle un pouvoir féodal, sans aucune représentation de la base, du peuple, sans aucune délégation, sans aucune concertation, et en tout cas, sans aucune définition collective des objectifs, sans aucun partage égalitaire. C'est quand même une chose curieuse, si vous remarquez bien. Ça voudrait dire que la démocratie ne permet pas la production de ces conditions d'existence. Le reste, oui, mais les conditions d'existence, non. On en est même à se poser une question, à savoir, est-ce que la démocratie, ce n'est pas la possibilité de vivre d'une manière féodale, par hasard, de manière tolérée? Bon, puis il y en a une deuxième, il y en a une seconde. La seconde, c'est, on dit, mais la démocratie, c'est les élections. C'est le fait que tout le monde puisse s'exprimer et élire ses représentants. Non. La démocratie, c'est le peuple agissant pour le peuple en tant que tel et dans les intérêts du peuple. Les élections, c'est un peu différent. C'est la recherche d'un mandat par des professionnels du mandat. C'est un concours du mandat, un concours de professionnels du mandat. Et ça vise simplement à changer les anciennes élites. Les élites du sang, du rang, de l'argent ont été remplacées donc par des nouvelles élites qui sont des élites politiques, mais qui ne sont pas le peuple. Eh si, watch out. Il y en a évidemment qui disent, mais quoi la démocratie? Mais vous rendez compte, Athènes, la démocratie athénienne, le bonheur. On rêve de la démocratie athénienne. D'ailleurs, on en rêve tellement qu'on ne sait plus trop bien ce que c'est. La démocratie athénienne, vous voyez, tout de suite, c'est une image, c'est un panorama.
Comme tous les enfants gâtés d'Europe, j'attendrai la rédemption. Jusqu'à ce que quelque chose dans mon slop m'indique la bonne direction. Entouré de jouets machines qui prétendent à des solutions. Je déroule mon ver de terre jusqu'à ce qu'il ressemble au piton.
Mais c'est une légende, c'est un mythe. La démocratie athénienne, c'est un mythe.
Tu dois
t'expliquer. Là. Tu crois? Ça commence à décevoir déjà un peu là. Non, mais ça déçoit, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, non?
Peut pas être un mythe.
Moi,
j'ai vu un film dessus.
Ça, c'est pour asseoir ta théorie et faire gonfler ton pantalon. Ça.
Why not? Why not? Mais oui, c'est un mythe. Moi. Mais d'ailleurs, beaucoup de mythes viennent de la Grèce, mais notamment la démocratie athénienne. Vous ne me voyez pas assez, peut-être. Vous voyez que je vienne là, non? Ou qu'on demande qu'il y ait plus de lumière.
Jonathan, tu peux écrire un peu plus ouais.
Non, non, ça, je ne peux pas avancer les micros. Non,
le rapport au sol était bien
tout est planté là. Bon, alors, soyons clairs. Sur la démocratie athénienne, puisque c'est un mythe, puisque vous n'avez pas l'air bon, et que personne n'a l'air de croire cette histoire, je vais dire deux, trois bricoles. C'est pas demain qu'on y arrive. J'ai oublié de dire un truc sur les orchestres pirates, c'est que ce sont d'abord des pirates et ensuite un orchestre. Donc une insubordination, mais native, profonde, génétique. Pour moi, c'est pareil, d'accord. Mais bon, voyez le résultat. Alors vous, voilà. Donc je continue. Ouais, c'est, ben, de toute façon, on est dans l'ombre. Donc vous serez bien dans l'ombre avec moi, non?
Est-ce qu'on peut l'éclairer un peu plus?
Tiens, parle là-dedans. Voilà. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'on appelle l'Ecclésia...
Vas-y.
Mais je suis en train d'y aller, là, tu le vois bien quand même. Donc, ce qu'on appelle l'Ecclésia... L'Ecclésia, c'est-à-dire la partie qui gouverne Athènes, à l'époque. Athènes, c'est 380 000 habitants, et l'Ecclésia, c'est-à-dire la partie qui est en capacité de gouverner Athènes,
oui.
Hop là, c'est... 42 000 habitants, c'est-à-dire 11%. Ah, ça commence à aller mal. Donc il y a 11% de gens qui gouvernent.
Tu peux reprendre ce sont les suffrages exprimés.
Ah non, je reprends pas ça.
Les suffrages, on compte les bulletins blancs dans les 11%.
Alors il n'y a pas de bulletin parce qu'on tire au sort. C'est clair. Il y a 42 000 personnes et on tire au sort les gens qui vont exercer le pouvoir. Alors vous allez dire, bien sûr, ah ça c'est super démocratique parce que c'est n'importe qui exerce le pouvoir. Non, attendez, une seconde. C'est pas n'importe qui, c'est les grands propriétaires, les armateurs, les prêteurs sur gage et les gens qui ont pu se payer l'uniforme pour défendre Athènes. En sont exclus les femmes, les esclaves, les pauvres, les marchands.
Et les petits pains briochés.
Et les enfants. Ah, c'est ça, la démocratie athénienne, c'est la brioche aux anchois. C'est ça. Ah oui.
C'est pas un honte.
La brioche aux anchois, non, mais la démocratie, oui. Je viens de dire que la démocratie athénienne, c'est 11% qui finalement représente les riches. Et les autres, nada.
11% de l'Occident.
Mais non, la population d'Athènes. Pas de comparaison, pas haut. Mais c'est dit, donc. Bon, bien. Alors, 380 000 habitants, 42 000 qui sont l'Ecclésia, dans lesquels on tire au sort ceux qui vont gouverner. Évidemment, on ne tire au sort que parmi les riches. Donc, vous avez une politique démocratique de riches. C'est ça que je voulais dire. C'est bien, ça, non? C'est clair, non? Ouais.
J'aurais bien aimé être
à Athènes
riche avec le soleil.
Ça, c'est un peu râpé, oui.
Je suis trop jeune, moi.
Ça, c'est un peu râpé.
Il faut attendre un peu.
Je pense que plus tard, je serai moins jeune.
Qui parle?
Je te demandais si plus tard, je serai moins jeune, Fantasio.
Ah, on va pour la soirée.
C'était super. Non, non,
merci. Merci. Oui, j'en ai une autre à dire là-dessus. Oui, oui. Non, c'est pas vraiment une blague, mais à vous, on fait ou un solo, ou alors je raconte l'histoire la suite. Hein. C'est comme vous voulez. Fantasio, tu préfères un solo ou je dis la suite? Qu'est-ce qu'on fait?
Non, je disais juste à Yves que j'ai pas compris cette
question. Bon, alors je dis la suite. Ouais. Tu le sens, le solo, là, non? Ça apparaît. Hein. Bon, alors. Moi aussi, mais... Tu l'as mis? Athènes, c'était une démocratie de brigands. Ce qu'on nous oublie quand on parle des 11% de l'Ecclésia, dans lesquels on piochait les gens qui allaient gouverner Athènes régulièrement tous les deux ans. Mais ça n'avait aucune importance puisqu'ils avaient tous les mêmes intérêts. Donc. Mais ce qu'on oublie, c'est que les gens qui travaillaient à Athènes, ceux qui s'occupaient de tout à l'égout, qui s'occupaient des routes, qui s'occupaient de tout, c'était des esclaves. Et ils appartenaient aux gens de l'Ecclésia, corps et âme. Comme démocratie, pardon. On pourrait faire mieux quand même. On peut être d'accord là-dessus, non ? Sur le fait qu'une démocratie qui se paye un travail exécuté par des esclaves dont on a la propriété, non, c'est quand même un peu douteux, non ?
En même temps, j'en parle.
Oui, Fantasio. Je t'écoute.
Non.
Sol majeur plutôt.
Si on a les mêmes chiffres, le même nombre de chiffres dans son numéro de téléphone, tout le monde a le même nombre de chiffres. Je vois pas ce que c'est.
Aucun rapport. Aucun rapport. Strictement aucun. Mais c'était une bonne.
Well, I'm not a lonely prostitute who could bet the bot on you. In the graveyard that I call my lonely institute. J'ai trois couches à enlever. Le déodorant du premier client, le triste parfum du deuxième et la bave du dernier. I'm that lonely prostitute who could bet the bot on you. In the graveyard that I call my lonely institute. À Athènes, hein? J'ai entraîné la moitié de mes cuisses musclées. Et je me suis réentraîné à Paris, capitale. À Athènes, je me suis entraîné à assouplir un grand fessier qui sert de reposoir aux petits pingouins d'années. I'm that a lonely prostitute who could bet the bottom mute in the graveyard that I call my lonely.
Pas mal. Déjà le noir. C'est que Athènes était sans doute une démocratie de brigands, mais il semblerait que la démocratie soit toujours une démocratie de brigands. Depuis le début et jusqu'à nos jours.
T'es sûr ?
Ouais. Si on regarde, par exemple, les démocraties européennes, celles dont on parle autant. Donc les démocraties de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Mais qu'est-ce qui a permis que là-dedans on vive avec plus ou moins de confort, avec une augmentation des salaires, avec une augmentation des écoles, des routes, des hôpitaux.
À moi.
Oui. Ce qu'il a permis, c'est les colonies. Ça s'appelait comme ça. Parce qu'il y avait la réserve coloniale quand s'est offert la démocratie, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire, c'est parce qu'on avait la possibilité de mettre la main sur des ressources à un prix tout à fait, à aucun prix d'ailleurs, gratuitement. Une main-d'œuvre, à aucun prix d'ailleurs, gratuitement. C'est comme ça qu'on s'est offert les assurances sociales, le progrès social, beaucoup de choses. On le voit d'ailleurs qu'aujourd'hui ça devient difficile. Depuis qu'on n'a plus personne qui travaille pour nous, moins. Alors, aujourd'hui, ça a un peu changé. Les méthodes ne sont plus tout à fait exactement les mêmes. On n'assassine plus Allende au Chili ou Lumumba au Congo, non. On a trouvé d'autres méthodes, mais c'est les mêmes. Ça s'appelle la Banque mondiale, le FMI, et ça repose sur ce qu'on appelle l'endettement. L'endettement. Le résultat est le même. Le caoutchouc vaut pas lourd. le cacao non plus, et les enfants peuvent enfin, en France, bouffer du cacao et même en jeter la moitié à la poubelle en disant « Mon chéri, tu as raison, ça fait mal au foie. »
Ouais, mais bon...
Quoi ? Ça fait pas mal au foie ?
Non, mais je veux dire... C'est...
Ah, c'est violent.
Donc... À moi.
À toi, vas-y.
J'arrête ?
Ouais.
Non. Non, non, non.
Fais un bisou, mon chéri. Fais un bisou. Dis à maman que tu l'aimes. Dis à maman que tu l'aimes. Viens, mon chéri. Fais-moi un bisou. Dis-moi que tu m'aimes. Si tu me dis que tu m'aimes, je te ferai un bisou. Dis à maman que tu l'aimes. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Si tu me dis que tu m'aimes, je te ferai un bisou. Tu veux le camion ? Tu veux le camion ? Fais-moi un bisou. Est-ce que tu veux une tablette, mon chéri ? Oui, fais-moi un bisou. Oui.
Fantasio, je reprends.
Vas-y.
Après le Sri Krishna.
Voilà. Rapidement dit, les démocraties fonctionnent à la condition d'exercer de la piraterie sur les autres, sur les matières premières, sur les salaires, sur les ressources, sur tout ce que vous voudrez. Mais ce qui est intéressant, c'est ça qui nous réunit ce soir, c'est que les pirates...
Qui nous réunit ?
Qui nous réunit ? Tu as compris le truc ? Tu vois la jonction ? Oui. Donc ce qui nous réunit ce soir, c'est le fait que les pirates... Quand ils s'organisent démocratiquement. C'est ça qui est passionnant. C'est même étrange, non ? Que les pirates se donnent d'abord comme organisation, une organisation démocratique. Et non pas un truc féodal avec un chef, comme on imagine, violent, méchant, qui frappe tout le monde, etc. Pas du tout. C'est une assemblée générale, c'est comme un soviet. Une assemblée générale qui gouverne tous les jours sur le bateau pirate et qui élit son capitaine, qui élit son quartier-maître. Et voilà. J'ai 42 ans, j'ai 9 enfants, je suis patron. J'ai des bateaux qui opèrent dans le golfe d'Aden et dans tout l'océan Indien. J'ai terminé mes études secondaires, je voulais aller à l'université, mais nous n'avions pas assez d'argent. Alors je suis devenu pêcheur à Ayl dans le Puntland, comme mon père. Je rêvais de travailler pour une compagnie. En mer, nous nous heurtions souvent à des bateaux de pêche étrangers. Certains n'avaient pas de licence, d'autres avaient une permission des autorités du Puntland, mais ne voulaient pas de notre concurrence. Ils menaçaient de détruire nos bateaux et nous forçaient à fuir pour sauver nos vies. J'ai commencé à capturer ces bateaux de pêche en 1998. Je n'avais pas d'entraînement particulier, mais je n'avais pas peur. Pour notre premier bateau capturé, nous avons recueilli 300 000 dollars. Avec l'argent, nous avons acheté des AK-47 et des petits hors-bords. Je ne sais pas exactement combien de navires j'ai capturés depuis, mais je pense que c'est autour de 60. Quelquefois, lorsque nous partons pour attaquer un navire, nous devons affronter des vents violents. Certains d'entre nous sont malades, certains meurent même. Nous nous faisons amis avec les otages. Nous leur disons que nous voulons uniquement l'argent et pas les tuer. Quelquefois même, nous mangeons du riz, du poisson ou des pâtes avec eux. Quand l'argent est parvenu à bord, nous comptons les dollars et nous laissons les otages s'en aller. Dans notre communauté, on pense que nous sommes des pirates qui nous emparons illégalement de l'argent. Mais nous, nous nous considérons comme des héros qui fuient la pauvreté. Un poco de luz, por favor. Gracias, mucho de casa. Les pirates avaient une charte. Tout pirate, c'est-à-dire tout marin pirate, signait un contrat. C'était une coutume. Voici la charte pirate de l'équipage de Guillaume Cousin, une des chartes pirates exemplaires parmi nous. Nous, les signataires, avons convenu ensemble ce qui suit. Premièrement, d'un commun accord et bonne volonté, nous avons fait et écrit le présent contrat au tiers, et nous voulons qu'il soit exécuté sous cette forme et appliqué sans résistance aucune, ainsi est notre volonté. Nous avons en plein accord nommé et nommons la personne de M. Guillaume Cousin comme capitaine et commandant, et promettons de lui obéir pour tout ce qui sera raisonnable, et de ne rien exécuter sans l'en aviser, et lui, il fera de même. Et le susdit M. Cousin s'oblige à ne pas nous exposer à une mort ignominieuse, et de ne rien exécuter sans nous en rendre compte, sous peine d'être dépouillé de sa charge, privé de son droit et dégradé sur une caille, un îlot désert. Et pour le bon et agréable service que nous espérons de lui, nous sommes tombés d'accord pour lui offrir, dès que nous ferons une prise, la caisse du capitaine de la prise, ses habits, ses armes, à l'exception de l'argent sous différentes formes, sans que personne puisse s'y opposer. Et tout l'or et l'argent frappé, comme celui qui ne sera pas frappé, sera rapporté à la table commune, comme tous les effets pour les mettre entre les mains du quartier-maître, lequel nous en rendra fidèlement compte et les répartira entre la compagnie dès que ce sera possible. À cet effet, à la majorité des votes, nous avons nommé la personne de M. Pirou comme quartier-maître. Cela pour qu'il prenne soin de garder fidèlement tous les effets qui seront remis entre ses mains, dresser un état de compte de l'argent frappé, et tout ça pour nous le remettre quand la dite compagnie le décidera et quand ce sera possible. Et si quelqu'un, pendant le combat, s'enivre, et s'il n'est pas en état de combattre, il sera puni rigoureusement selon ce que décidera la majorité des votes de la compagnie. De même, si quelqu'un cherche des noix à son compagnon ou à un autre, mal à propos, il sera aussi puni selon ce que décidera la compagnie.
Jean-Paul.
Oui.
Et si le capitaine déconne?
On le fout dehors. Il est dégradé.
Comme un maire? Comme un maire?
Non, malheureusement pas. De même, le dit quartier-maître sera tenu de traiter avec douceur ses compagnons, de ne pas brutaliser, par ses commandements, ses camarades, être fidèle et juste sur tout ce qui sera de son ressort.
Comme un maire.
Non, c'est le quartier-maître, celui-là. C'est celui qui surveille le capitaine.
Le maire.
Oui, le maire, si tu veux, voilà. C'est comme si tu élisais un maire et puis quelqu'un pour surveiller le maire. Au cas où il prendrait trop de pouvoir, le maire, et que tu dises, attendez, le maire, il fait, bon, il arrange des contrats, mais il y a quelqu'un qui le surveille pour que l'argent nous soit reversé.
Excuse-moi, on pourrait tuer le maire de Villetaneuse.
Please, no comment.
de Limoges, d'Ajaccio.
Ah, oui.
Bon.
Et tous s'obligent à lui obéir quand il commande dans ce qu'il sait. Mais il ne fera rien de son propre chef sans en référer au capitaine et à la dite compagnie. Et les autres officiers de mer feront de même, remplissant leurs obligations sous peine d'une punition semblable. S'il se trouve que quelques-uns de la dite compagnie veulent violer de force une pucelle ou une femme de qualité sans son accord, quiconque de la compagnie qui y assistera sera autorisé à lui casser la tête sans aucune objection.
Merde.
N'importe qui du conseil municipal, c'est ça qui est dit. Et chacun aura une part égale, les uns comme les autres, réservant au capitaine deux parts s'il a bien fait son travail. Quant au quartier maître, s'il accompagnait son devoir, en plus de sa part, chacun lui donnera quelque chose, mais gracieusement. Et nous avons tous un commun accord promis et promettons fidélité et vivre en bonne union, tous ensemble. Et pour cela, nous avons signé en bas et nous avons fait notre signe ordinaire, fait en mer, le 6 avril 1723. Charte de l'équipage Guillaume Cousin. Les abeilles, les hommes, les abeilles, les fleurs, les hommes, les abeilles, les fleurs, tout cela constitue un cycle pirate parfait. Les hommes s'emparent du miel des abeilles, les abeilles s'emparent du pollen des fleurs. Et les fleurs poussent n'importe où dès que les hommes ont un petit peu retourné la terre, qu'ils ont mis du fumier, etc., et que ça va beaucoup mieux. Et là-dessus, les abeilles vont butiner et les hommes prennent le miel des abeilles. Voilà quelque chose qui ne fonctionne pas sur la production, mais sur la prédation, sur le vol réciproque. Et voilà un bien commun. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand les abeilles prennent le pollen des fleurs, elles le transportent et ça assure la reproduction des fleurs. Lorsque les hommes prennent le miel des abeilles, ils s'occupent des abeilles, leur donnent du sucre pendant l'hiver, les soignent éventuellement, ou les détruisent comme actuellement, mais ça c'est pour une autre raison. Mais d'ordinaire, jusqu'à maintenant, en tout cas, ils les protégeaient des maladies et tout ça. Quant aux fleurs, évidemment, les hommes les plantaient pour cette même raison. Donc on voit qu'autour d'un cycle de prédation, un bien commun était constitué. Un trésor public, si on peut dire. Bon. Les abeilles vivent en démocratie, c'est étrange. Elles ne fonctionnent avec un parlement. Oui. Mais leur production, puisqu'il faut en parler quand même, est-ce que c'est vraiment une production ? Les abeilles, pour faire du miel, prennent du pollen et se le transmettent par la bouche 75 fois, c'est-à-dire qu'elles embrassent 75 partenaires qui s'embrassent eux-mêmes 75 fois pour arriver à faire du miel. Et donc une ruche, c'est une embrassade générale, enfin c'est une sorte d'endroit extrêmement sensuel, une production sensuelle où tout le monde s'embrasse, enfin les abeilles, pour arriver à faire passer donc le pollen 75 fois d'une bouche à une autre, chaque fois différente, pour arriver à du miel. Évidemment, vu comme ça, la production industrielle en prend un coup. Alors on va en revenir à... autre chose. Qui est la charte. La chasse partie.
On va commencer la chasse partie.
On est déjà là, Fantasio.
Excusez-moi, vous pourriez déplacer le BX-15, l'étain, ou faire quelque
bleu, ce truc. Voilà. Tu vois?
Mais il faut être non.
Poussez où l'interrupteur? C'est pas facile, hein, c'est un doux. Chaque pirate pourra donner sa voix dans les affaires d'importance et aura un pouvoir de se servir quand il voudra des provisions et des liqueurs fortes nouvellement prises, à moins que la disette n'oblige le public d'en disposer autrement. La décision étant prise par vote. Les pirates iront tour à tour, suivant la liste qui en sera faite à bord des prises, et recevront pour récompense, outre leur portion ordinaire de butin, une chemise de toile. Mais s'ils cherchent à dérober à la compagnie de l'argenterie des bijoux ou de l'argent d'une valeur de 1 dollar, ils seront abandonnés sur une île déserte. Si un homme en vole un autre, on lui coupera le nez et les oreilles et on le déposera à terre en quelque endroit inhabité et désert.
Est-ce que vous pourriez répéter cette phrase vraiment à l'unisson avec, oui, dans un rapport très tendre pendant que je vais me changer perdu,
voilà. Si, si, ouais.
Le nez et les oreilles.
Oui. Alors, comme ça.
Si un homme vole un autre.
On vole un autre. On lui coupera
le nez et les oreilles et on le déposera à terre en quelque endroit inhabité et désert.
Ah, mais c'est horrible.
Il est interdit de jouer de l'argent au dé ou aux cartes.
Ah oui, d'accord.
On y va. Ça va, t'es en forme ? Ok, ça se voit. Les lumières et les chandelles doivent être éteintes à 8 heures du soir. Ceux qui veulent boire, passer 7 heures, doivent rester sur le pont, mais sans lumière. Les hommes doivent avoir leurs fusils, leurs sabres et leurs pistolets, toujours propres, en état de marche et à portée de la main. La présence de jeunes garçons ou de femmes est interdite. Celui que l'on trouvera en train de séduire une personne de l'autre sexe et de la faire naviguer déguisée sera puni de mort. Quiconque déserterait le navire ou son poste d'équipage pendant un combat sera également puni de mort ou abandonné sur une île déserte. Personne ne doit frapper quelqu'un d'autre à bord du navire. Les querelles seront vidées à terre de la manière qui suit, à l'épée ou au pistolet. Les hommes étant préalablement placés dos à dos feront volte-face au commandement du quartier maître et feront feu aussitôt. Si l'un d'eux n'attire pas, le quartier maître fera tomber son arme. Si tous deux manquent leur cible, prendront leur sabre. Et celui qui fera couler le sang le premier sera déclaré vainqueur.
Every time you loaf and mash your little horny watches, call me never eat them. That you think you've been just dying by another leader, motherfucking will go
early leader, or a thou it all continues to.
Nul ne parlera de changer de vie avant que la part de chacun ait atteint 1000 livres. Celui qui devient infirme ou perd un membre en service recevra 800 pièces de mine sur la caisse commune. En cas de blessure moins grave, notre choix est une somme proportionnelle. Le capitaine et le quartier maître recevront chacun 2 parts de butin. Le canonnier et le maître d'équipage 1 part et demie. Les autres officiers 1 part et 1/4. Les flibustiers 1 part chacun. Les musiciens auront le droit de se reposer le jour du sabbat. Les autres jours ne leur seront accordés que par faveur.
C'est pas grave, ils sont libres, voilà, ils font ça pour eux-mêmes.
Ils
trouvent du bonheur à le faire, tu vois. Voilà,
pareil. Ils peuvent faire des théories sur la démocratie.
Ouais, carrément. Même jouer ça en musique, d'ailleurs. En se marrant, les copains qui viennent.
C'est la crécelle du Mozambique.
Oui, c'est ça. Tu y es ? Tu l'as trouvé ? Non, c'est un miracle.
Ça pourrait. J'ai travaillé dans des dictats, dans des médiathèques.
On t'écoute.
On est prêt. Il n'y a vraiment rien qui me manque. Ni la dictature, ni les yeux cousus. Je ne vois pas l'avenir d'une phrase oppressante qui n'a pas fini de me hanter, qui est encore me hante. Mais j'aimerais revoir ma patrie. Ma patrie qui revient à l'envers. Ma patrie qui revient à l'endroit. C'est la propre patrie de mon corps qui s'évanouit dès que je me mets.
Vous avez dit, c'est un orchestre pirate quand même. Vous êtes... Ça va. Personne n'est surpris. Bon. Deux choses qui viennent à l'esprit comme ça rapidement. Oui, Fantasio, tu as
repris. J'ai un truc à dire. Hein.
Ça fait plus ton point de vue s'affine, plus tu te trompes sur tout. Dans ton point de vue, je devine des cadavres mous. Dès que ton point de vue s'affine et que tu le répètes au tout venant.
Dans notre communauté, on pense que nous sommes des pirates qui nous emparons illégalement de l'argent.
Toutes les médiathèques de France s'écroulent, on peut nager.
Nous considérons que nous sommes des héros.
À ce propos, donc, moi je voudrais vous lire un document que j'ai découvert à la médiathèque de Marguerite Duras. En ce début d'après-midi du 12 juillet 1726 à Boston, William Fly monte sur l'échafaud. Il doit être pendu pour piraterie. Sa démarche est leste, à l'image de celle d'un marin qui embarque. Entre ses mains, rendues calleuses par les cordages, il tient un bouquet de fleurs. Son visage, tanné par les intempéries, affiche un air souriant. Il n'exprime aucune culpabilité, aucune honte, aucun remords. En fait, il ne semble pas concerné par ce qui lui arrive.
Yves, tu pourras arrêter la machine qu'on entend juste.
C'est trop fort. Hein. Vous voulez que j'arrête la machine, là ?
On est un récit, quoi, on peut correct son musique.
Ouais. Donc, il ne semble pas concerné par ce qui lui arrive. Une fois sur le gibet, son comportement change radicalement. Ses gestes se font plus décidés. Il s'approprie la potence. Il inspecte d'abord soigneusement la corde qui doit enserrer son cou. Il se tourne ensuite vers le bourreau d'un air déçu et lui reproche de ne pas connaître son métier. Devant la foule médusée rassemblée au pied de la foule médusée rassemblée au pied de l'échafaud, il rectifie lui-même le nœud. Afin de rendre les choses plus pratiques et efficaces. Il harangue le bourreau et la foule, criant qu'il n'a pas peur de mourir et qu'il n'a causé de tort à personne. Fly est déterminé à mourir en bon gars. Mourir en bon gars. En bon gars. Alors qu'approche le moment des dernières paroles, Fly, lui, ne demande pas pardon. Il ne supplie pas. Il refuse d'évoquer des hautes valeurs du christianisme. Au contraire, il émet un ultime avertissement. Face à la foule de marins et de capitaines rassemblés dans le port, il prononce son vœu le plus cher. Que tous les maîtres de navire craignent de subir le sort du capitaine Green que j'ai assassiné. Qu'ils paient aux marins leur salaire au moment dû. Qu'ils les traitent correctement. C'est votre propre barbarie qui en a transformé autant en pirates. Il meurt en rebelle, une dernière menace de mutinerie aux lèvres. Non. Non. Un peu après. Ah oui. Pour après. Il est bon de parler de sa barbe. Il est bon de parler de sa barbe qui contribua à l'effroi que son nom fit régner en ces contrées lointaines. Cette barbe était noire. Et il l'avait laissé pousser jusqu'à atteindre une longueur extravagante. Elle lui venait jusqu'aux yeux et il avait coutume de l'entortiller en petites nattes à l'aide de rubans et à l'enrouler autour de ses oreilles. Pendant l'action, il portait une écharpe à la taille et trois paires de pistolets en bandoulière.
À la mosquée de Paris, exceptionnellement dans le cadre de la Nuit Blanche du Patrimoine et du Festival Relecture, pour chaque séance de massage gommage, un casque vous est délivré, l'intégrale de la vie des pirates du XVIIIe siècle, Barbe Noire, Blackbird, Bartholomew Roberts, Benjamin Hornigold, Olivier Levasseur, dit Labuse, Jacques Rackham. Après une séance de hammam et de gommage et de dégommage, tout en douceur et en stéréo, choisissez les pirates les plus violents et laissez-vous basculer en arrière pour une détente absolue. Un échantillon pour le festival Relecture vous est offert aujourd'hui.
En faisait une figure si épouvantable que l'imagination ne saurait concevoir une furie de l'enfer sous un aspect plus terrifiant. Un jour, en mer, la nuit qui précéda sa mort, il but jusqu'au matin avec certains de ses hommes et le patron d'un bateau marchand. Il avait eu vent de l'approche des deux sloops venus à sa rencontre, et comme l'un de ses hommes lui demandait si, pour le cas où il lui arriverait malheur au cours de l'engagement, sa femme ne devait pas savoir où il cachait son argent, Il répondit que personne en dehors de lui et du diable ne savait où ce bel argent se trouvait, et que celui des deux qui vivrait le plus longtemps pourrait garder le tout. Dans le monde des pirates, c'est le plus criminel qui est envié, comme le plus méritant et le plus apte, et s'il est vraiment courageux, il devient un grand homme. Parfaitement.
On passe à la suite.
Bartholomew Roberts, le arrière-grand-père de notre ami. Portrait de Bartholomew Robert. Quelque peu parent et ancêtre de Yves qui est ici.
Barthélemy, on l'appelle.
Barthélemy, oui.
Babar,
oui, mais ça plus tard. Allons-y. Le capitaine Roberts avait à ce moment-là fière allure. Vêtu de satin cramoisi, une plume rouge au chapeau, une chaîne d'or à son cou, en pendentif une croix enrichie de diamants, il tenait son épée à la main. Une écharpe de soie jetée sur ses épaules pendait, selon la mode des pirates, une paire de pistolets. Les ordres qu'il donnait étaient clairs et précis. Il reçut, ainsi qu'il l'avait prévu, le feu du Swallow. Il hissa son pavillon noir et rendit la bordée, s'écartant autant qu'il le put. Eut-il alors suivi les conseils d'Armstrong, que le navire ne fut vraisemblablement échappé. Mais il manqua son changement d'amure et, dérivant sous la poussée du vent, revint une seconde fois sous le feu du Swallow. Sans doute combattu avec l'énergie du désespoir si la main l'avait touché. Un paquet de mitraille l'atteignit au cou, il tomba sur un canon. Roberts était de haute taille et très brun. Il n'avait pas encore 40 ans. On l'entendit dire, dans le service courant, la solde est médiocre et le travail écrasant. Pirate, je vis dans l'abondance et le plaisir. Je dispose de la force et de la liberté. Qui ne ferait comme moi, sachant qu'il ne risque guère qu'un mauvais moment, celui du nœud coulant qui vous chatouille la gorge? Non, courte et bonne, voilà ma devise.
Thank you.
Et les USA, c'est pas une démocratie pirate. C'est pourtant la plus grande démocratie au monde, la plus exemplaire. Celle qui, d'ailleurs, défend la démocratie et toutes les démocraties. Bien sûr que c'est une démocratie pirate. Bien sûr que les USA sont fondés sur la...
courte et bonne.
Ah, ça,
c'est ça que tu as dit avant.
Oui, on le répète.
Voilà. Ouais, ensemble, trois, quatre. Courte et bonne.
Voilà, madame.
Alors qu'aujourd'hui, la devise, c'est plutôt... très longue.
Non, pire que ça. Pire que ça. C'est pire. Non. Quitte à s'emmerder le plus longtemps possible.
Voilà.
C'est ça. C'était ça, hein. L'esprit en tout cas. Je reviens aux États-Unis. Donc les États-Unis, évidemment, c'est une société de prédation. Évidemment que les terres ont été confisquées aux Indiens. Évidemment que là-bas, il n'y a eu pratiquement et au départ qu'un voisinage de prédateurs. Ce qui n'était pas étonnant, puisque nous venons voir maintenant les sociétés pirates. Nous comprenons parfaitement que la démocratie soit le système qui a été le mieux adapté pour un pays qui se construit sur la prédation. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Il y a évidemment la dépossession des Indiens, mais c'est plus compliqué encore. Commençons par la dépossession. On peut dire une chose, c'est que la prédation en question, le vol des terres des Amérindiens, ne s'est pas fait parce que des gens étaient venus seulement voler les terres, mais parce qu'il a fallu un encouragement d'État à la prédation. Pourquoi ? Eh bien parce que pour constituer une nation, pour fabriquer les États-Unis, l'Amérique, il fallait donc un ensemble de citoyens propriétaires. On ne pouvait pas gouverner. D'abord, il n'y avait pas de nation géographiquement parlant s'il n'y avait pas de propriétaires. La nation, c'est le territoire fait de toutes les propriétés additionnées. Il n'était pas possible qu'il y ait un endroit qui ne soit pas la propriété de quelqu'un. On a proposé d'abord aux Indiens, évidemment, d'être propriétaires de l'endroit où ils étaient en devenant agriculteurs. Les Indiens n'étaient pas agriculteurs. Ils ne pouvaient pas le devenir, ils n'avaient aucune intention. Quant aux autres, on leur a demandé de vendre la terre. Mais ils ne pouvaient pas vendre la terre. Les Indiens sont enfants de la terre. Et ils disaient, on ne vend pas notre mère. Et d'ailleurs, les autres disaient, il y a là les os des ancêtres, on ne vend pas nos morts. Donc impossible de s'entendre avec les Indiens sur la vente. Le problème de fond pour Jefferson, c'était ça. Constituer une propriété qui aille de la côte est à la côte ouest. Alors, en 1862... parce que les choses pressent, qu'elles tardent, et que les Indiens tardent encore plus à retarder, justement, à repousser cette idée de mise en propriété des terres, et qui voit très très bien comment ça va, sinon finir, en tout cas, se dérouler, eh bien, on invente le Homestead Act. Le Homestead Act, c'est très simple. Si vous habitez là depuis 6 ans, aux États-Unis quelque part, et que vous exploitez plus ou moins la terre, vous avez des brebis, un bœuf, n'importe quoi, enfin, voilà, cette terre est à vous. Cette terre est à vous à la condition de 65 hectares, pas mal. C'est la taille du parc d'Hermanonville où j'étais il y a 4 jours, donc c'est comme ça que je sais à quoi ça ressemble, 65 hectares. C'est gros, 65 hectares, gratuitement. Et puis, ça ne marchait pas. 300 et quelques mille fermes ont été constituées comme ça, mais ce n'était pas suffisant pour faire un grand territoire de propriété privée qui aille de l'est à l'ouest. Alors on a dit, si vous êtes là que depuis 6 mois, ce n'est pas grave. Avec 1,80 $, vous pouvez vous acheter une dizaine d'hectares, même 200 hectares, etc. etc. Jusqu'à ce que rien, parce qu'on n'est pas arrivé malgré ça. Alors on a inventé un jeu. Parce que pourquoi pas en faire un jeu de cette histoire-là ? Le Land Run. Le Land Run, c'est un jeu incroyable. C'est un jeu qui s'est inventé dans l'Oklahoma. Le 22 avril 1889. Ce sont 50 000 fermiers qui accaparent une réserve indienne de l'Oklahoma. Washington autorise chaque colon à s'emparer de 64 hectares. Celui qui court le plus vite sera le premier servi. C'est la règle du Land Run. Au départ de Guthrie, en plein centre du territoire indien, 50 000 fermiers, employés, maquereaux, bandits, cordonniers, crèvent la faim. Cow-boys, prostituées, etc., s'abattent là-dessus et se partagent 800 000 hectares en une journée. C'est pas tout. Fort Reno, quelques temps après, les soldats font mettre sur une même ligne 10 000 colons. Tout ça au canon. Mais un journaliste très avisé, le 18 mai de la même année, 89, dit « Avec son aspect pittoresque, la ruée sur la frontière à midi, le jour d'ouverture, devrait rester dans l'histoire comme l'un des événements les plus marquants de la civilisation occidentale. » Il ajoute d'ailleurs « La dernière barrière de la sauvagerie aux États-Unis a été pulvérisée. » Le 16 septembre 1893 a lieu le plus grand land run de l'histoire des land run, le plus célèbre, qui s'appelle d'ailleurs le Cherokee Spring Run. Ce sont 100 000 concurrents, cette fois-ci, alignés sur une même ligne. Strip run. Strip, strip, strip. You know what? Strip tease, strip run. S-T-R-I-P. Okay? Yeah, you got it. All right. S-T-R-I-P, vous voyez ce que je veux dire? Strip run.
You mean S?
S, like strip tease.
Then S?
Mais strip tease, like strip run.
T?
Oui, par exemple.
R?
Le, tu vois?
A?
I?
S?
R? P?
T?
R-U-M?
Jean-Paul, tu peux continuer, s'il te plaît, parce que moi, ça me passionne. Ton...
Oui, non, mais c'est vrai. C'est...
S?
Non, même si c'est l'orthographe, c'est moi qui le passionne. Oui, c'est ça. Donc, ce jour-là, 100 000 concurrents sont alignés sur la même ligne. Si vous avez vu le film avec Clint Eastwood qui s'appelle... Je ne sais pas comment, j'ai oublié.
Quand ça ne vient pas, tu peux dire...
C'est un film d'époque.
The Strolling Slopes.
Oui, yes, well, that's, yes, you're right.
Si tu as un trou, tu peux dire un film avec Eastwood... The Climber's Lake.
Oui, donc 42 000 parcelles
aussi,
vont être distribuées ce jour-là, c'est-à-dire 28 000
Blumen's Cloaks. The Schlitten's Lakes.
Le dernier Lamblin, donc, a lieu le 23 mai.
The Rolling Blacks.
Le plus triste, quand même, c'est quand même qu'en 1905, les Blancs se sont emparés de la quasi-majorité des terres des Indiens. Deux ans plus tard, le 16 novembre, 1907, le territoire de l'Oklahoma entre dans l'Union comme 46e État. Jusque-là, il était terre indienne.
Un bon dien vaut mieux que deux. Tu l'auras pas. Peut-être. C'est passionnant.
Bon, mais c'est... Là, évidemment, vu comme ça, c'est toujours tapé sur les Américains. C'est des sauvages, des voyous, des bandits, des prédateurs, des assassins. Il n'y a pas que ça.
C'est facile.
Oui, parce qu'il y a l'autre pendant des choses, c'est la liberté absolue. Il faut se mettre à cette idée en tête. Foutre le camp d'Europe, quitter l'entreprise, quitter la police, quitter bon, le monde européen et se dire on va tout recommencer à zéro. On fout le camp, on arrive dans une terre qui n'est pas gouvernée, il n'y a rien du tout, et c'est l'Ouest. Et à l'Ouest, il y a effectivement cette idée d'une liberté absolue, souveraine, voluptueuse. Il y a des fous de liberté. Il y a la horde sauvage de Butch Cassidy, par exemple. Une bande de types complètement cinglés qui ne veulent vivre que comme les pirates au présent. La volupté, voler, dépenser, et on verra bien demain. Si on est encore vivant, on continue, sinon ça s'arrête. Pas que. Pas de Garrett et Billy the Kid, bien entendu. Billy the Kid, une sorte de symbole de celui qui ne veut pas arrêter cette liberté absolue parce qu'il n'est pas parti en Amérique de l'Ouest pour aller revivre une vie de fonctionnaire. Il est allé pour rien du tout. Il est né dans cette liberté, il veut garder cette liberté, c'est un sauvage absolu. Voilà pourquoi ce sont des héros aussi, parce que d'une certaine façon, c'est le contraire des prédateurs. Et ils font partie de ce même courant. Mais ils sont aussi comme des pirates. Et voilà pourquoi l'Amérique est une société pirate. Elle est formée par les deux courants principaux de la piraterie. D'une certaine façon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est joué aux États-Unis entre le 16e, 17e, 18e siècle, la scène primitive des sociétés modernes, tout recommencer. La loi, le partage, l'égalité ou pas, l'organisation sociale, et voyez ce que c'est devenu. Mais tout a été rejoué, ou en tout cas, tous ont tenté de le rejouer. Ce qui semble, c'est que dans les démocraties, que ce soit la démocratie athénienne, mais plus près de nous, la démocratie américaine, ou même la nôtre d'ailleurs, au départ, il y a cette espèce de volupté débauchée. Comme si la démocratie, dans son origine, c'était le partage sans production de ce qui a été pris, et que ce soit justement ça le moment démocratique. Le moment de ce partage sans autorité, fraternité absolue, égalité absolue. Freud dit quelque chose de très étrange à propos de la fraternité, qui a des conséquences complètement troublantes. Il dit, mais au fond, toute la société a commencé avec la mort du père qui possédait les femmes, qui possédait tous les biens, et les fils étaient frustrés. Et un jour, ils se sont regroupés, ils ont tué le père, ils l'ont mangé. Et après, ils étaient libres, angoissés, pourris par l'angoisse. Ça n'empêche qu'il y a dans cette forme de liberté absolue, dans ce crime total dont parlait Sade, qui disait « Seul le crime libère de l'angoisse de la loi ». Oui, bien sûr, à quel prix ? Quelque chose comme une beauté, sauvage évidemment, dont parle Jean Genet. Jean Genet se demande qu'est-ce que c'est que cette beauté des insurgés, des révolutionnaires ? À propos des révolutionnaires, il dit ça. L'affirmation d'une beauté propre aux révolutionnaires pose pas mal de difficultés. L'explication est peut-être celle-ci. Brisant les ordres archaïques, une liberté neuve se fraye un chemin à travers les peaux mortes. Et les pères et les grands-pères auront du mal à éteindre l'éclat des yeux, le voltage des tempes, l'allégresse du sang dans les veines. Par beauté, entendons une insolence rieuse que nargue la misère passée, les systèmes et les hommes responsables de la misère et de la honte, mais une insolence rieuse qui s'aperçoit que l'éclatement hors de la honte était facile. Un affranchissement. Absolu, fondateur pour chez nous, mais court, un beau texte. Tu pilotes ? Allons-y. Louis XVI s'avance sur le bord gauche de l'estrade. Il déclare d'une voix forte : Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. À 10h22, la planche bascule. La lunette de bois se referme sur sa tête et le bourreau, Charles-Henri Sanson, actionne le couperet. Un assesseur du bourreau saisit la tête sanguinolente et la présente au peuple. Quelques Parisiens crient « Vive la nation, vive la République, vive la liberté !» Quelques salves d'artillerie sont tirées et certains dansent la farandole. Jacques Roux, commissaire de la Commune de Paris, rédige le procès-verbal de l'exécution. Il précise que des citoyens recueillent sur l'échafaud ensanglanté le sang du roi avec leurs mouchoirs, leurs piques ou leurs sabres. Certains veulent acheter aux bourreaux des mèches de cheveux du roi. Les bourreaux plongent leurs doigts dans le sang et ils se barbouillent mutuellement le visage. Le canon tonne et prévient la famille du roi restée à la tour du temple que l'exécution vient d'avoir lieu. Un spectre hante les démocraties. Un spectre de l'absolue absence d'autorité, du partage absolu, de l'âge d'or, de l'absence de production. D'une volupté dispendieuse que les institutions ont progressivement recouverte. Quand les richesses se sont reconstituées, que les pouvoirs se sont reconstitués, mais toujours le spectre appelle par-dessous. Le spectre des origines. Il faut toujours reprendre les choses au début. Démocrate, encore un effort. Ucciso mio padre, mangiato carne umana, tremo di gioia, j'ai tué mon père, j'ai mangé la chair humaine, et je tremble de joie. J'ai tué mon père, j'ai mangé la chair humaine, je tremble de joie. Ucciso mio padre, mangiato carne umana, stremo di gioia. Ucciso mio padre, mangiato carne umana, tremo di gioia.
petit mot pour remercier Edouard Fantasio, Yves Robert et Jean-Paul Curnier, juste pour dire que ce concert est un peu la conclusion. D'abord, vous venez d'assister à un livre, en fait, vous ne le savez pas. Mais en tout cas, là, on a accueilli pendant un an à l'espace Chiasma en résidence Jean-Paul Curnier, qui est écrivain, pour qu'il écrive un livre. Et ensemble, on a partagé une modalité d'écriture de livre qui est assez gaie, parce qu'on est sur la table d'écriture de manière assez gaie, avec des rencontres, en tout cas, qui durent depuis maintenant pas mal de mois. Alors, ce n'est pas tout à fait la conclusion, mais en tout cas, on a pu entendre les grandes lignes d'un livre à venir, en train de se travailler, en train de se... Voilà, qu'on a été présenté ce soir. Donc, évidemment, en fait, c'est une forme non conventionnelle, mais nos partenaires de la région Île-de-France, qui nous ont vraiment soutenus pour accueillir Jean-Paul pendant un an, nous en excuseront, parce qu'en général, on est plutôt des bons élèves, hein, mais là, on s'est un peu laissé entraîner par des gens qui ont fait des bêtises comme ça. Mais, donc, je suis un peu venu pour m'excuser aussi. Mais, non. En tout cas, merci à vous pour ce soir, pour dire aussi que je vais laisser la parole à Jean-Paul, peut-être pour dire juste deux mots sur ce petit temps de résidence. Je te redonne la parole, peut-être, pour cette conclusion.
Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Dis-le moi. Du coup, on n'a pas répété avant, donc c'était un peu compliqué.
Mais non, on ne s'est pas vu.
On ne s'est pas vu, c'est pour ça. Non, mais tu peux dire, je ne sais pas, remercier les élus. Bon, tu le dis avec un truc un peu comme ça, un peu rebelle. Tu le fais un peu rebelle, tu vois, comme ça a l'air de ne pas le dire, mais quand même, ils se disent ça. Ils disent qu'on a progressé comme ça.
Merci, mais merci. Merci les élus. Merci d'être élus. Oui. Non, mais c'est vrai, ils sont gentils. Je veux dire, un type comme moi, comme ça, qui présente un dossier pour dire que la démocratie est liée à la piraterie, elle est liée à la prédation, et donc elle est forcément malsaine. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, maintenant je vous le dis, c'est que si ce que j'ai dit est vrai, ça veut dire que nous vivons dans un système démocratique qui pousse au crime, et que les gens vertueux, comme vous et comme moi, ne sont pas à leur place dans une démocratie. Parce que normalement, il faut être un prédateur, il faut être un dur, un criminel, un voleur, tout ça. Voilà, donc présenter ça à des élus et qu'ensuite ils disent ben, il a raison, tiens, il faut l'encourager, on va lui donner de l'argent public pour écrire un livre là-dessus. Oui, quand même, je crois que c'est quand même assez. C'est assez honnête de ma part de dire que, puisqu'ils ont vraiment lu ce que j'ai écrit et qu'ils l'ont fait en toute connaissance de cause, merci. Parce que là, franchement. Alors, s'ils n'ont pas lu mon dossier, évidemment, mais non, ils ont lu le dossier. Et ils ont lu le dossier où je dis ça, ce que je suis en train de vous dire, à savoir que la démocratie est un régime criminel. Enfin, c'est même une organisation criminelle parfaite. C'est ça que je suis en train d'essayer d'expliquer. Et ils ont dit il faut lui donner de l'argent. Voilà. Bon, donc vous voyez que ça va, quand même, hein, du point de vue de la démocratie, un peu, ça va. Bon, pour la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est... c'est par rapport à ce que c'est qu'une résidence. Cette idée-là, c'était l'idée de ne pas, à chaque fois, écrire un essai avec des arguments, une argumentation, comme ça, avec des aspects historiques, avec tout ça. Et je me suis dit, parce que je souhaitais, que je voulais le faire, que j'en avais l'occasion, grâce à Chiasma, de je ne dirais pas terminer, mais d'aboutir ce travail de réflexion pendant presque un an, enfin 10 mois, de l'aboutir sous la forme d'un concert. Pour une raison, il y en aurait mille, mais d'abord une principale, c'est que je pense que les arguments sont construits comme la musique et qu'ils ne sont pas bâtis sur la simple raison. Et ils sont aussi une capacité de séduction, une capacité selon la façon de les présenter, la façon de les amener. Il ressemble au développement musical et à l'improvisation musicale. Et c'est pourquoi je fais ça depuis assez longtemps. Mais là, je trouvais que c'était important que le cœur même d'un livre soit présenté sous la forme d'un concert, sachant qu'évidemment, ça ne ressemble pas à un livre, qu'il ne s'agissait pas de lire, mais plutôt de produire quelque chose, et que cette chose-là m'échapperait. Elle m'échappe absolument, totalement, et j'en suis infiniment ravi. Et je vous remercie d'être venu ce soir.